Nous en sommes à la deuxième journée intensive de 2023 au Centre Zen de Montréal. J'aimerais aujourd'hui lire et commenter quelques textes du maître indien Nisargadatta. Dans l'introduction à son livre « Je suis », il est écrit que si l'on avait demandé à Sri Nisargadatta Maharaj de nous raconter sa vie, ce dernier aurait certainement répondu qu'il n'y a rien de tel qu'une naissance, une croissance, et que rien n'est jamais arrivé. Nisargadatta est né à Bombay en 1897. Ses parents étaient de simples fermiers et l'on dit que son enfance s'est écoulée dans une ambiance laborieuse et religieuse. Après le décès de son père, il quitta la terre familiale à l'âge de 20 ans et adopta la vie d'un commerçant. L'ouverture d'une échoppe où il vendait des petites cigarettes indiennes fut bientôt suivie de plusieurs autres. Il se maria et eut un fils et trois filles. Un jour, à l'âge de 37 ans, l'un de ses amis lui fit connaître celui qui allait devenir son guide spirituel. Ce dernier encouragea Nisargadatta à ne s'occuper que d'une seule chose. « Tu n'es pas ce que tu crois être. Trouve ce que tu es. Observe le sens de « je suis ». Découvre ton véritable soi. Tu n'es pas ce que tu crois être. Il en va de même pour nous. Cela ne veut pas dire que nous devions modifier nos croyances au sujet de ce que nous sommes. Ce serait là simplement substituer une idée à une autre. Non, cela signifie simplement vous n'êtes jamais ce que vous pensez. Permettez-moi de simplement redire cette phrase. Vous n'êtes jamais ce que vous pensez. C'est là la direction à suivre lorsque l'on pratique avec le Coran « Qui suis-je ?». Toutes les réponses qui apparaissent dans notre esprit doivent un jour ou l'autre être abandonnées afin que la vérité puisse se révéler. Nisargadatta dira plus tard, « J'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Dès que j'avais du temps, je le consacrais à m'observer en silence. » Il dira également, « Mon maître m'a dit un jour, « Tu es la réalité suprême. » Et je lui ai fait confiance. Je l'ai cru. » Il ne lui fallut que 3 années pour connaître un éveil profond et réaliser son être véritable. À l'âge de 40 ans, un an après le décès de son maître, Nisargadatta abandonna sa famille et ses affaires et mena une vie de moine errant à travers l'Inde. Une rencontre avec un autre disciple de son maître l'amena cependant à adopter une autre voie. Il vit les défauts d'une vie totalement détachée du monde, et tout à l'inverse, la fécondité qu'il y a à vivre une vie active, mais dénuée de passion, près des autres, dans le monde. À son retour à Bombay, Maharaj trouva toutes ses échoppes à l'abandon, sauf une. Dans l'intérêt de sa famille, il reprit le travail, mais consacra la plus grande part de son énergie au travail spirituel. Au fil des années, il perdit sa femme et 2 de ses filles. Il construisit au-dessus des 2 petites pièces où il vivait un endroit pour la méditation. Et bientôt, les gens furent attirés vers lui. Tous les jours, de 8h30 à 12h30 et de 16h30 à 18h30, Nisargadatta écoutait ceux et celles qui s'adressaient à lui, des gens aux prises avec des problèmes personnels qu'il soit spirituel, intellectuel ou simplement affectif. Son fils prit sa succession dans le commerce des cigarettes et Maharaj put finalement consacrer tout son temps à ses rencontres. Le livre « Je suis » présente les conversations qu'il a menées avec ceux et celles qui l'ont visité. Comme vous le savez sans doute déjà, si vous avez lu le livre « Invitation à la pratique du Zen », M. Lo disait que la pratique du Zen, et plus spécifiquement le Zazen, comporte trois aspects: la concentration, la méditation et la contemplation. Il disait que méditer, le second de ces trois aspects, signifie penser, mais penser avec aisance et souplesse. Penser sans hâte, sans chercher à comprendre ou tenter d'en arriver à une interprétation définitive des phrases ou des paroles autour desquelles l'on médite. On prend une phrase, une expression, une brève citation que l'on a choisie parce qu'elle nous parle, pour ainsi dire, comme si cette phrase, cette expression ou cette citation nous disait quelque chose, mais sans trop savoir quoi. Et l'on laisse ces mots tourner dans notre esprit. On leur fait une place. On y revient sans les bousculer, avec lenteur. On laisse ces mots faire leur travail en nous. On les suit là où ils nous mènent. Albert disait, je cite, « La méditation est une méthode de base employée dans toutes les religions, dont le bouddhisme. Et son effet est d'adoucir le cœur, permettant ainsi à notre grand besoin de plénitude de remonter plus aisément à la surface. » Fin de citation. Il est aussi souvent aidant d'accompagner nos méditations d'activités calmes et peu exigeantes, qui requièrent une attention que l'on pourrait dire flottante, moins concentrée, une attention détendue qui laisse l'esprit en paix. Il lui permet de s'enrouler, pour ainsi dire, autour des mots ou des phrases qu'on laisse planer en nous. Albert disait aussi parfois que méditer, c'est comme laisser une faible averse de pluie venir ameublir la terre. Cette terre parfois aride, c'est notre propre cœur. Et l'on se sert des mots que l'on a choisis et autour desquels l'on médite pour l'adoucir un peu. Le livre « Je suis » de Nisargadatta est extrêmement riche à cet égard. Il suffit presque de l'ouvrir au hasard pour y trouver des phrases ou des expressions que l'on peut méditer des jours, sinon des années durant. À partir de 1980, Maharaj, qui était alors atteint d'un cancer, écourta sensiblement les entretiens qu'il accordait. Il ne répondait plus qu'aux questions qu'il jugeait essentielles. Et l'on dit que bien peu de gens se sont alors aventurés à poser des questions. Dans son livre « Les Orients de l'être », Ramesh Balsekar, qui fut l'un des plus proches disciples de Nisargadatta, et l'un de ses traducteurs auprès de ses visiteurs anglophones et européens, raconte les derniers instants de la vie de son maître. Et je cite, « Mardi 8 septembre 1981. Quand je suis arrivé chez lui ce matin, comme d'habitude, un peu avant 10 heures, j'ai pensé que Maharaj semblait mieux que la veille. Son visage avait une meilleure couleur et ses yeux étaient plus vifs. Je lui dis que je repasserais en fin d'après-midi et il en parut satisfait. Comme je partais, Maharaj dit qu'il avait sommeil et allait se reposer un moment. Vers 18h30, comme je m'apprêtais à partir pour la demeure de Maharaj, je reçus un appel téléphonique. m'informant que son état était très inquiétant. Je me précipitai chez lui et le trouvai sous oxygène. Ses yeux étaient ouverts, mais avaient une expression vide. Il respirait à grande peine et la fin ne semblait plus très éloignée. De plus en plus ténue, sa respiration finit par s'arrêter totalement à 19h30. Maharaj avait accompli la transition du relatif à l'absolu le plus aisément et le plus paisiblement du monde. Le lendemain, à l'issue d'une cérémonie simple mais émouvante, le bûcher funéraire fut allumé par le fils de Maharaj. La forme physique du maître se fondit dans les éléments dont elle était constituée. En dire davantage sur le maître serait à la fois superflu et déplacé et irait totalement à l'encontre de l'enseignement de Maharaj. Passons maintenant au texte. Un jour, Nisargadatta répondit à l'une des personnes qui l'interrogeait, et je cite, « Il n'y a que la vie. Il n'y a personne pour la vivre. La vie est sans contrainte et libre. Contemplez la vie en la regardant comme infinie, non divisée, toujours présente et active, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous êtes un avec elle. » Fin de citation. Il n'y a que la vie. Il n'y a personne pour la vivre. Ne croyez pas aveuglément ce qui est dit ici. Nisargadatta nous lance un défi. Comme le font si souvent aussi les maîtres zen, en utilisant les koans pour nous aider à aller au-delà de nos réponses toutes faites et éveiller en nous ce que dans le zen l'on appelle le grand doute. Maharaj sait très bien, pour l'avoir vécu lui-même, que nous abritons dans notre esprit des convictions arrêtées, en croyant, par exemple, que nous sommes quelque chose, une personne, une âme, un individu, un moi, un je, peu importe ici les mots que nous utilisons, et que ce quelque chose est séparé du monde et des autres. C'est là la source d'un malaise profond dans notre vie. Mais qui ne le croit pas? Nisargadatta nous invite à examiner de près ce qui nous semble si évident. Lorsque, par exemple, nous restons assis longtemps en zazen et que la douleur apparaît dans nos jambes ou notre dos, qui ressent cela? Y a-t-il là quelqu'un ou quelque chose qui ressent cette douleur? Bien sûr, n'est-ce pas? Comment en douter? C'est vous, c'est moi. Cela nous semble si évident. Il faut parfois s'asseoir en zazen pendant de longues années avant de commencer à voir qu'éprouver de la douleur, c'est déjà ressentir, et qu'entre les deux, il n'y a absolument personne. Aucune séparation. Douleur et ressentir sont un. Monsieur Lowe nous demandait parfois, lorsque l'oiseau chante, où êtes-vous? Le chant de l'oiseau, c'est déjà entendre. Et entre les deux, il n'y a personne. Encore ici, aucune séparation. Le chant de l'oiseau et entendre sont abandonnez l'idée que vous êtes ce que vous pensez être, nous dit encore Nisargadatta. C'est en vous imaginant séparés que vous avez créé le fossé. Vous n'avez pas à le traverser. Il vous suffit de ne pas le créer. Tout est vous, tout est vôtre. Il n'y a personne d'autre. Nous avons pris l'habitude de créer de toutes pièces un je personnel et nous l'insérons là où il n'y a personne. Il n'y a que la vie. Il n'y a personne pour la vivre. Et Nisargadatta continue en disant, et je cite, « N'être rien, ne rien posséder, ne rien garder pour soi-même, c'est le plus grand des dons, la générosité la plus élevée. Le renoncement est le premier pas. Mais le vrai renoncement, c'est de réaliser que nous n'avons à renoncer à rien, car rien n'est nôtre. » Fin de citation. Qu'avons-nous à perdre? Il n'y a en nous personne pour posséder quoi que ce soit. Et que pourrions-nous donc vraiment posséder, alors que d'instant en instant, tout s'écoule sans cesse? Nous ne pouvons rien garder pour nous-mêmes. Alors pourquoi ne pas tout abandonner? Il n'y a personne en nous. Il n'y a aucune chose qui soit nôtre. Qu'y a-t-il hors de nous? Et de quoi manquons-nous? Nous demande Maître Aquin dans son chant du Zazen. Le plus grand des dons, la générosité la plus élevée, c'est de renoncer à prétendre que nous sommes quelque chose. Et de voir qu'en renonçant à cette illusion, nous ne renonçons à rien, sinon à notre propre souffrance et à celle que nous créons pour les autres et le monde. Jeff Shore, qui reviendra nous visiter en juin prochain, a déjà écrit « Lorsque vous êtes vraiment sans soi, vous voyez clairement que tout ce qui existe est sans soi. La précieuse dignité de chaque chose vous est alors pleinement révélée. » Nisargadatta poursuit en disant, et je cite, « Tout ce que vous avez à faire est de comprendre ce point central. La réalité n'est pas un événement qui se produit. Et tout ce qui se produit, tout ce qui vient et va, n'est pas la réalité. Voyez simplement l'événement en tant que tel, le transitoire comme transitoire, l'expérience comme simple expérience, et vous aurez accompli tout ce que vous pouvez. Vous devenez alors vulnérable à la réalité. Vous ne portez plus d'armure contre elle, comme lorsque vous êtes convaincu que la réalité est une expérience ou un événement. » Fin de citation. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, disait le philosophe grec Héraclite. Mais on peut aller plus loin et voir que l'on ne peut même pas se baigner une seule fois dans le même fleuve, puisque celui-ci change sans cesse et n'est jamais le même d'un instant à l'autre. Où pourra-t-on jamais trouver un fleuve qui ne s'écoule pas? Les fleuves ne sont jamais immobiles, sinon dans les pauvres mots que nous utilisons pour en parler. Les mots du langage épingle l'expérience, comme on épingle un papillon mort. Dans nos mots, les fleuves se tarissent toujours. Nisargadatta nous rappelle que l'impermanence ne peut jamais être saisie et que les choses de la vie s'écoulent sans cesse. Où pourrait-on y trouver la moindre réalité? C'est comme si non seulement le fleuve s'écoulait, mais aussi ses berges, son fond, ses sédiments et tout le paysage alentour, le ciel tout entier avec tous ses oiseaux et ses nuages. Rien n'est immobile un seul instant. Et cela est vrai pour chacun d'entre nous. Rappelez-vous, Maître Dogen, nous disant, l'impermanence, c'est notre vraie nature. Voyez l'expérience comme simple expérience, et vous aurez accompli tout ce que vous pouvez, nous dit Maharaj. Lorsque vous êtes en zazen, ne refusez pas ce qui se manifeste en vous, vos pensées, vos sensations, les émotions que vous ressentez, ce que vous imaginez, l'ennui, les regrets, vos désirs, vos peurs, votre cœur qui s'emballe, la douleur qui monte. Laissez tout entrer. Laissez toutes ces expériences vous traverser. Puis sans les repousser, laissez-les s'en aller. Ne les retenez pas. Laissez-les passer. Tout s'écoule sans cesse, en vous et autour de vous. C'est vivre, tout simplement. Revenez toujours à votre respiration. Laissez votre attention se poser sur elle, sans chercher à contrôler quoi que ce soit. Ou si vous travaillez avec un koan, revenez à votre questionnement. Cimentez-vous à votre question. Ne vous en éloignez pas. Vous aurez alors accompli tout ce que vous pouvez, nous dit Nisargadatta. Vous devenez alors vulnérable à la réalité. Vous ne portez plus d'armure contre elle. Monsieur Lou m'a dit un jour en Dokusan, ce n'est pas Louis qui va y arriver. Louis n'y arrivera jamais. Il n'y a en nous personne pour chercher quoi que ce soit. Il n'y a que la vie, nous dit Maharaj. Il n'y a personne pour la vie.